Alors l'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Donc ça, c'est au moment où il est arrivé en prison. Un peu avant ça, Genèse 39, versets 2 à 6, quand il est arrivé chez Potiphar. L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Incroyable. Dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph et la bénédiction de l'Éternel reposa sur ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Impressionnant. Il a pris le bon serviteur, je pense, Potiphar. Il s'est pas trompé. Il a choisi Joseph. L'Éternel était avec Joseph. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dit, chez ce gars-là, il y a quelque chose de différent. Tout ce à quoi il touche, ça réussit. Je vais lui donner des responsabilités. Et puis, ma maison, finalement, sera bénie. Et c'est ce qui s'est passé. Sa maison était bénie. Donc là où tu es, si Dieu est avec toi, il n'y a pas que toi qui seras béni. Ça, c'est une clé qu'on peut retirer. Les autres, les personnes seront bénies autour de toi. Alors, on va aller plus loin, tout ça, on l'a déjà vu. Et puis, on va prendre le chapitre 40. Alors, pour donner un peu de contexte, est-ce que j'ai ma bouteille d'eau? Juste là. Un petit peu de contexte, chapitre 40. On est plus loin dans l'histoire. Et puis, Joseph est chez Potiphar. J'ai des bêtises, il est en prison. D'accord? Joseph est en prison. Et là, vous avez deux personnes qui ont manqué à leur devoir. C'est le chef des boissons et le boulanger. Le pharaon les envoie en prison. Et là, ça va mal pour eux. Mettez-vous à leur place. Ils se retrouvent là en prison. Et puis, le même soir, au même moment, ils font chacun un rêve. On ne va pas tout lire, ce chapitre est assez long. Et puis, là, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils tombent au bon endroit. Le responsable de la prison, c'est quand même quelqu'un qui interprète les rêves. C'est Joseph. Et Joseph, ils vont aller voir Joseph. Et Joseph va dire, ben, moi, je peux interpréter votre rêve. Et il va leur dire exactement ce que ça veut dire. Et il va leur dire ce qui va se passer. D'accord? Et une fois qu'il leur a dit ça, on arrive à ce verset-là. Une fois qu'il leur a révélé ce que Dieu voulait leur dire, il va leur dire, cependant, il va dire ça au chef des boissons, il va dire, cependant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi. Parle en ma faveur au Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. On constate à ce moment précis, souvenez-vous de tout ce qu'on a dit la semaine passée, Joseph est déjà passé par plusieurs péripéties, il est déjà sorti d'une citerne. Voilà, il y a eu le rêve que Dieu lui a donné alors qu'il avait 17 ans. Et là, il est dans la prison, et puis il se passe un truc incroyable. Deux personnes arrivent, il interprète leur rêve, et il leur dit exactement ce qui va se passer. C'est quand même fort, vous aimeriez bien vivre des choses comme ça. Franchement, super. Et là, il va leur dire les choses, mais il leur dit, voilà, quand tu seras heureux, fais preuve de bonté envers moi. Parle en ma faveur au Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Que veut Joseph? Joseph veut, à ce moment-là, sa volonté propre est de sortir de prison. Qui ne voudrait pas sortir de prison? Pourtant, il est bien. Quand je dis il est bien, c'est qu'il est en responsabilité. Mais sa volonté, à ce moment-là, c'est de dire, fais-moi sortir de cette maison. Dieu a agi, je vois qu'il y a une porte qui s'ouvre. Vous voyez dans votre vie, quand vous sentez qu'il y a une porte qui s'ouvre, et vous dites, là c'est bon, Dieu agit, il va se passer quelque chose derrière. Et là, Joseph, il saute sur l'opportunité, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et parle au Pharaon. Et plus loin dans le verset, il va dire, je n'ai rien fait qui mérite la prison. Et c'est juste, il n'a rien fait qui méritait la prison. Il est finalement victime dans cette affaire, mais voilà. Sa volonté, souvenez-vous bien de ça, c'est de sortir maintenant. Verset 23, on a notre responsable des boissons qui retourne, il est élevé, tout s'accomplit, le boulanger est pendu, et puis lui retrouve sa place de chef des boissons, il est content, tout se passe bien. Et qu'est-ce qui nous est dit dans ce verset-là ? Le responsable ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. Il l'oublia. Mets-toi à la place de cet homme. Il vit quand même quelque chose d'incroyable. Pharaon, voilà, l'homme le plus puissant à ce moment-là, le met en prison, donne pas cher de sa peau. Il va en prison et là, il fait un rêve. Il fait un rêve incroyable. Déjà, première chose, il sait que c'est un rêve, c'est pas n'importe quoi. Il sait qu'il y a quelque chose de plus dans ce rêve-là. Il y a un gars dans la prison qui lui interprète ce rêve. Waouh ! Deuxième chose, assez étonnante, ça n'arrive pas tous les jours, ces choses-là. Et en plus, il lui interprète, et les choses qu'il lui interprète se réalisent. Parce que interpréter, dire « bon, voilà, j'ai vu un rêve, voilà... » Mais quand ça se réalise, c'est quand même autre chose. Il vit quelque chose d'incroyable. Mettez-vous à sa place. Il retourne dans sa vie d'autrefois et là, il est écrit « Il oublia Joseph ». Il l'oublia complètement. Et si vous vous souvenez de la semaine passée, on a dit que Dieu était le maître des circonstances. On a vu que Dieu a mis Joseph dans ces situations-là. Pourquoi ? Pour qu'il se passe certaines choses. Il lui avait donné un plan propre à sa vie, mais c'est ce que nous a dit Annie, sa propre vie fait partie d'un plan plus global de Dieu. Et on a dit, on a conclu que c'était pour le salut de son peuple, pour la création même de son peuple. Et puis voilà, il y a tout un plan là derrière. Et s'il y a écrit qu'il oublia, c'est que quelque part, Dieu est dans tout ça. Tu ne peux pas oublier quelque chose comme ça. C'est une expérience un peu trop forte. Tu peux oublier des traumatismes, des choses qui vont traumatiser ton corps à un mécanisme, il va te protéger. Mais dans le positif, comme ça, tu passes à côté de la mort, ça ne s'oublie pas, quelque chose comme ça. Mais lui, il l'oublie. Et on va aller plus loin. Joseph, lui, qu'est-ce qui se passe ? Vous imaginez, il vit cette situation, cette circonstance, et là, il dit « Souviens-toi de moi », il attend. Une semaine passe, deux semaines passent, trois semaines passent, quatre semaines passent, un mois passe, deux mois passent, et il ne se passe toujours rien. On ne vient toujours pas le sortir de prison. Mettez-vous à la place de Joseph. Moi, j'aurais commencé à râler. J'aurais dit « Seigneur, attends, tu me permets d'interpréter ces rêves-là ? Je suis en prison ? » Il est temps de me faire sortir maintenant. Il faut que ça bouge. Comment t'aurais réagi, toi ? Et on voit que Joseph, il continue. On va passer du chapitre 40 à 41. Et là, on n'a plus aucune info. Plus aucune info sur ce qui se passe en prison avec Joseph. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit ? Chapitre 41. On nous dit que 2 ans vont s'écouler. Au bout de 2 ans, le pharaon fit à son tour un rêve. 2 ans s'écoulent. 2 ans s'écoulent. 2 ans où Joseph attend quelque part la main de Dieu qui s'étende pour lui et que les circonstances bougent. Moi, j'aurais aimé voir dans quel état, et je suis triste de ne pas avoir plus d'informations, dans quel état d'esprit était Joseph. Comment il était ? Comment il a vécu la chose ? 2 ans s'écoulent. Et là, vous avez toute l'histoire du... Si vous voulez en savoir plus, vous irez lire. Le chapitre 41, le pharaon va expliquer ses rêves, ses deux rêves. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Versets 9 à 13, on va revenir sur notre chef des boissons. Et là, bizarrement, versets 9 à 13, 2 ans après, alors que quelques jours après, il avait oublié ce qui s'était passé dans la prison... Eh bien là, 2 ans plus tard, tiens, Pharaon fait un rêve, et lui, alors, le grand responsable des boissons prit la parole et dit au Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Ah tiens, les souvenirs sont revenus. Et là, il va dire au Pharaon tout ce qui s'est passé. Le pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, ainsi que le chef des boulangers. Nous avons tous les deux fait un rêve au cours d'une même nuit et chacun de nous a reçu une explication en rapport avec le rêve qu'il avait fait. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, un esclave du chef des gardes. Nous lui avons raconté nos rêves et il nous les a expliqués. Tout s'est produit conformément à l'explication qu'il nous avait donnée. Le pharaon m'a rétabli dans mes fonctions et a fait pendre le chef des boulangers. Tout lui est revenu. Tout lui est revenu. Incroyable. Et là, vous connaissez la suite. Pharaon va faire appeler Joseph. Il va lui raconter son rêve. Et puis Joseph va dire, c'est Dieu qui te parle. Ces deux rêves sont une même chose. Et puis il va se passer ça. Mais Joseph a dû attendre 2 ans. Waouh ! À 17 ans, il reçoit son premier rêve de la part de Dieu où il va, ses frères, eh bien voilà, toute sa famille, vous vous souvenez de la semaine passée ce qu'on a dit. Et là, eh bien, il interprète les rêves et il attend encore 2 ans. Il attend 2 ans. Mettez-vous à sa place 30 secondes. 2 ans longues d'attente dans une prison alors que Dieu lui avait parlé. Waouh! Moi, ça m'interpelle. Et vous savez, on avait parlé du fait que pendant toutes ces années, depuis l'âge de 17 ans, Dieu a travaillé le cœur de Joseph. Joseph n'est plus le même homme. Joseph n'est plus le même. C'est plus le même du tout. Son cœur a changé. Son cœur a changé. Mais en même temps, Dieu a travaillé quelque chose, il a travaillé à préparer le cœur de ses frères. Et plus tard, on a parlé du fait qu'il allait retrouver ses frères, il allait avoir une rencontre. Et on va voir ensuite comment Dieu a préparé les choses et on va tirer les conclusions de tout ça. Alors n'oubliez pas les 2 ans d'attente. Les 2 ans d'attente. Alors si vous vous souvenez bien, au verset 37, au début de l'histoire, eh bien, chapitre 37, verset 21, eh bien, Joseph est zélé, il raconte ses rêves, les frères n'en peuvent plus, et puis il mène un plan pour le tuer, et finalement c'est Ruben qui va se lever, il va dire non, on ne peut pas le tuer, et puis il va être bien intentionné, son objectif c'est de le ramener à son père. Mais ça ne va pas se dérouler comme prévu, parce que Judas, dans son cœur, eh bien, il va se dire attends, oh, on va pas juste, si on peut prendre un peu de profit, eh bien, on va vendre notre frère. Et c'est à l'initiative de Judas, verset 26, qui va dire, vendons-le. Souvenez-vous bien de l'intention du cœur de Judas. D'accord ? Ça commence à ce verset-là. Et plus tard, on va voir, on continue l'histoire. Joseph, eh bien, est en prison. 2 ans plus tard, il sort. Et puis là, il arrive, il explique le rêve à Pharaon. Et Pharaon se rend compte que, waouh, il se passe quelque chose. Mais suite à ton rêve, il faut agir. Parce que c'est bien, tu as reçu quelque chose, mais il faut que je trouve quelqu'un de sage pour pouvoir agir en fonction de ce que toi, tu as dit. Et qui de plus sage que toi, finalement, qui as su interpréter ce rêve pour administrer maintenant, eh bien, la nation, l'Égypte tout entière. Et là, Joseph est alors âgé de 30 ans. Verset 46, chapitre 41, si vous suivez avec vos Bibles, ce n'est pas des versets que j'ai donnés à Cassandre, mais il était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, le roi d'Égypte. Il quitta le Pharaon et parcourut toute l'Égypte. Et là, il se met en œuvre. 30 ans. Donc, 17 ans, il a vécu toutes ces choses. Et le premier verset, c'était quoi? C'était Joseph était en train de paître le troupeau. Et puis, qu'est-ce qu'il faisait? Il rapportait les mauvaises choses à son père. Alors, il a commencé avec les troupeaux. Il savait gérer un troupeau, Joseph. Mais il racontait toutes les mauvaises histoires et il était un peu médisant envers ses frères. Il est passé où ça? Dans la citerne. Souvenez-vous du type de caractère. Joseph a été face à lui-même. Il a dû prendre, Dieu l'a mis face à lui-même. Voilà, tu es dans telle attitude. Oui, je veux t'utiliser, mais à un moment donné, il va falloir que ça change. Il se retrouve face à lui-même. Et puis là, il va se retrouver chez Potiphar. Il va apprendre non plus à administrer des bêtes, mais des serviteurs, des esclaves. Et là, il apprend quelque chose de nouveau. Il y a l'école de Dieu à ce moment-là. Il va apprendre à gérer une maison et il va apprendre à gérer des serviteurs. Plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Il va apprendre à gérer un tout autre type de personnes, des prisonniers, des gens qui sont vraiment des personnes... à mon avis, c'est pas facile à gérer. Tu gères pas de la même manière des serviteurs qui savent qu'ils n'ont pas à broncher et qui suivent bien les ordres que tu sers des malfaiteurs, des gens qui sont capables finalement de toute chose. Et là, il passe par ces extrêmes, Joseph, jusqu'à arriver à la tête d'un pays, d'une grande nation, d'une nation qui est à ce moment-là toute puissante. Est-ce que vous voyez l'évolution? Mais Dieu, dans son plan, a travaillé le caractère de Joseph pour en arriver là. Et la question que j'ai posée à nos amis à Croissance, j'ai dit, mais comment un homme comme lui a pu rester comme ça, aussi confiant dans toutes ces situations? Comment tu peux rester aussi confiant? Moi, lorsque j'aurais donné ce rêve et interprété ce rêve, une semaine se serait passée, j'aurais dit, Seigneur, tu es en train de mettre les choses en place pour moi. Deuxième semaine, j'aurais commencé à proclamer. Troisième semaine, j'aurais déclaré un jeûne et prière. Je dis, Seigneur, j'attends. Quatrième semaine, j'aurais commencé à dire, ouais, Seigneur, c'est long. Et là, j'aurais dit, bon, on va peut-être pousser un peu le jeûne et prière. Je suis zélé aujourd'hui, je me sens bien. Mais au bout d'un mois, deux mois, trois mois, ta confiance en tant qu'homme commence à s'étioler. Tu peux dire ce que tu veux. Ta confiance s'étiole. Et alors, j'ai demandé à Jean, il est où Jean? T'es là Jean? Et je dis à Jean, mais comment il a fait pour garder confiance? Comment il a fait ça? Et Jean, il m'a dit, il m'a sorti toute une théorie. J'ai dit, non, Jean, tu te souviens Jean? Il a commencé à me prêcher et tout. Je dis, non Jean. Et j'ai dû l'amener à quelque chose de simple. J'ai dit, pourquoi t'as passé la bague au doigt à Antonia? Alors il était là, il a du mal à répondre Antonia. Oh! Il dit, non, mais c'est complexe, il y a tellement de choses. Oh, je dis, c'est pas possible. Pourquoi tu lui as passé la bague au doigt? Parce que je l'aime. Parce que je l'aime. Joseph aimait Dieu. Et la chose qui l'a tenu dans toutes ces circonstances, c'était son amour pour Dieu. Et la Bible est claire là-dessus, c'est Jésus qui dira, si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Oh, ça veut dire que Joseph n'avait pas tout le plan, mais il y a sa confiance en Dieu qui est restée ferme dans les situations. L'obéissance de cœur. Il n'y a pas obéi à une instruction, mais son cœur était obéissant à Dieu. Il subissait, mais il voyait que Dieu était avec lui et il savait pertinemment que Dieu allait agir en sa faveur. La confiance. La confiance, si tu es seulement confiant dans les circonstances, quand tu pries pour un malade, il est guéri, quand tu fais ceci, tout se passe bien, quand tu administres bien ta famille, tout se passe bien. Si tu as confiance seulement aux circonstances, eh bien finalement, à un moment donné, ta confiance va s'étioler parce qu'il y aura des citernes, parce qu'il y aura des moments où tout va être chamboulé dans ta vie. Et l'histoire que Joseph nous apprend, c'est que quand ta confiance est fondée sur l'amour que tu as pour Dieu, eh bien là, c'est différent. Et Sandy, elle nous a chanté ce chant qui dit quoi? Qui dit, eh bien, peu importe les circonstances, tu es notre seul repère. Et je me suis dit, waouh, Seigneur, c'est encore une confirmation. Tu es notre seul repère. L'amour de Dieu va me pousser à ce que mon cœur soit obéissant envers lui. Peu importe les circonstances, l'amour produit l'obéissance. Mon cœur se soumet à la volonté de Dieu. Mon cœur se calme quelque part et dit, voilà, il se passe toutes ces choses, mais Seigneur, je sais que tu es là. C'est une conviction profonde. Quel est le niveau de ta confiance en Dieu actuellement? Est-ce que ta confiance est basée sur les circonstances ou est-ce qu'elle est basée sur le fait que Dieu t'aime, mais que toi, tu l'aimes? Si tu es là ce matin, c'est parce que tu as dit, Seigneur, je veux te servir, Seigneur, je veux te suivre. Est-ce que c'est juste ou je me trompe? Sinon, on peut tous rentrer chez nous. C'est parce que tu as dit, Seigneur, je désire te suivre, j'ai besoin de toi. Et on l'a encore chanté ce matin. Alors la confiance en Dieu, produite par l'amour, va produire l'obéissance et ça va construire en moi une grande confiance. On va lire Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 10. On a beaucoup de versets, mais c'est pour un peu appuyer tout ce qu'on a dit toutes ces dernières semaines. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La semaine passée, je vous avais dit, vous avez été créés, nous avons tous été créés. Et Dieu connaît notre cœur, il connaît notre potentiel, il sait où il veut nous emmener. Mais Jésus est venu et il dit quoi ? Il dit que maintenant, en Christ, en plus d'avoir été créé charnellement, et Dieu connaît nos failles, connaît nos faiblesses, mais en plus d'avoir été créé charnellement, on a été créé en Christ. Il y a une nouvelle naissance qui va se passer là. Pour des œuvres, tu peux le remettre, Cassandre, pour des œuvres qui ont été préparées d'avance, de bonnes œuvres, les œuvres de Dieu, selon la volonté de Dieu, préparées d'avance. Enfin, c'est quand même fou. Tu peux te dire, tu peux faire pause aujourd'hui et dire, Seigneur, tu as préparé d'avance des choses pour demain. Si tout s'arrêtait maintenant, et voilà, que le temps s'arrêtait, tu pourrais réfléchir toute ta journée, enfin, tout, le temps s'arrête et tu pourrais dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as préparé pour demain ? Et tu pourrais même préparer ton cœur. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Le sablier du temps continue de couler. Ça veut dire que quoi ? On doit pratiquer, on doit réagir. Il y a quelque chose qui se passe, Seigneur, quelle bonne œuvre je peux pratiquer ? Qu'est-ce que tu mets dans mon cœur pour que maintenant, eh bien, je pratique les choses selon ta volonté. Et si vous lisez tout le verset chez vous, eh bien, il y a ce parallèle qui est fait entre les œuvres de la chair et les œuvres qui sont produites par la nouvelle naissance en nous, en Jésus-Christ. Notre volonté propre est la volonté de Dieu. Donc, ça s'appelle, eh bien, finalement, aligner notre propre volonté à la volonté de Dieu. Alors, Dieu a un plan. Dieu connaît tes rêves. Dieu connaît tes citernes, Dieu connaît les moments par lesquels tu passes, qu'ils soient bons ou qu'ils soient plus compliqués, et il va te mettre dans des situations pour que tu te souviennes de ce qu'il a dit pour ta vie, ce qu'il a déclaré pour ta vie. Parce que si vous vous souvenez bien, eh bien on a dit Joseph, ils sont arrivés à 400, plus ou moins 400 là-bas, quand Jacob est arrivé en Égypte, ils sont arrivés à plus ou moins entre 400-470 par là, et puis ils sont repartis à plus de 2 millions. Le plan de Dieu, c'était de changer le cœur de Joseph pour qu'il soit un leader, pour qu'il puisse bénéficier quoi de cette nation qui était toute puissante à l'époque. Toute puissante. Ils n'ont rien changé, ils n'ont pas changé le contexte géopolitique de l'époque. Ils ont juste été au bénéfice d'eux, par la grâce de Dieu. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y a eu la libération, il y a eu le peuple de Dieu, selon la promesse qui avait été faite des centaines d'années auparavant. Eh bien, Abraham, tu seras le père des multitudes. Et Dieu n'avait pas oublié cette promesse. Et ce n'était pas le caractère de Joseph qui allait chambouler les plans de Dieu. Dieu allait transformer toutes ces choses, toutes ces petites failles, pour la bénédiction et pour sa propre gloire. Oh là 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 là. Ça vous parle quand même, parce que moi, ça me secoue. Hein. Et alors qu'on parle d'un contexte aujourd'hui de géopolitique, et comme disait Fred, on peut prier pour toutes sortes de choses. On peut dire, Seigneur, fais ci, fais ça. Fais... Mais Dieu, vous savez, la politique, ça lui passe au-dessus de la tête. C'est tellement futile pour lui. Jésus, quand il était sur cette terre, il ne s'est pas occupé de ces choses-là. Mais pourtant, il connaît toutes choses. Toutes les circonstances sont faites pour le salut des âmes, premièrement. Et pourquoi ? Eh bien, voilà, pour le salut et pour la libération. Alors nous prions, Seigneur, dans ces circonstances, dans ces situations, eh bien, que des hommes, des femmes, eh bien, se tournent vers toi. Parce que toi, ton objectif, c'est le salut éternel. Cette terre, elle ne nous appartient pas. Mais nous, là-haut, il y a un royaume, oh là là, c'est autre chose. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps à perdre à essayer de régler des problèmes sur cette terre. On doit les affronter. On doit réagir, on doit pratiquer l'œuvre de Dieu. Mais c'est Dieu qui gère. Et je pense que dans ces contextes, après ces 2 ans par lesquels on est passé, là, ce qui est en train de se produire, et puis ça se produira certainement encore, eh bien, nous devons garder notre confiance en Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu manifesté. Manifeste ton amour envers Dieu en disant, Seigneur, je désire obéir à ta parole, obéir à ce que tu as déposé sur mon cœur, à ton dépôt. Il y a quelque chose en moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne comprends pas tout, mais je veux obéir. Parce que je sais que derrière, c'est pour ta gloire. Ce n'est pas juste moi. Il y a des gens autour de moi qui vont être au bénéfice, comme Joseph, les gens étaient au bénéfice de la faveur qui a coulé sur sa vie. Ça marche ? Alors faites le point dans votre cœur maintenant. Et je vais m'arrêter, on priera pour ça. Et puis le groupe de louanges, Sandy, si tu peux nous prendre un chant pour conclure ce culte.